Sport Campus, 13h-14h, avec Alain, Nicolas, Joris, présenté par Mélissa.
Et bonjour à toutes et à tous, il est 13h, on est mercredi, ce qui veut dire que vous écoutez Sport Campus, on est en direct. Comme tous les mercredis, on va retrouver la fine équipe avec Alain. Salut Alain.
Salut.
Comment tu vas? Nickel.
Devine.
Mais tu vas nickel, je sais que tu vas toujours nickel. Et on est aussi avec Nicolas Loubert. Salut Nicolas. Pardon, je n'avais pas monté ton micro.
Salut.
Et on accueille aussi Louis.
Oui, bonjour.
C'est ta première dans Sport Campus aujourd'hui, mais tu es déjà...
Je suis un habitué un petit peu.
Tu es déjà notre chroniqueur sport en herbe à la radio. On peut te retrouver d'ailleurs le lundi midi dans Café Campus.
C'est ça.
Et on accueille nos deux invités du jour. Il s'agit de Cyril Louafi et Anthony Touboul, éducateurs et formateurs. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Anthony,
Mais ça va très très bien.
Il faut dire nickel.
Ça va nickel alors.
Attention.
Tout le monde est nickel, c'est très bien. Je crois que Alain, avant d'entamer le vif du sujet de l'émission, on va parler, je l'ai annoncé un peu avant Sport Campus, de la Coupe du Monde au Qatar et on fera une discussion, débat autour de ce vif sujet. Mais tout d'abord, tu veux revenir sur les résultats de la boxe.
Oui, sur nos invités, les émissions précédentes. Kodjo Yetonio a fait le championnat de France à un moment. Il a été battu. Décision partagée, ce qui prouve qu'il avait sa place. Bon, il a été prévenu très tard, il n'a pas pu faire sa préparation, ça a été un peu tronqué. Mais pour avoir discuté avec Augustin Ekpogo, son coach, il va y revenir et il va être motivé. Alors, le camp boxe, le club vous appartient, avec 5 jeunes qui étaient qualifiés au championnat d'Aquitaine amateur. Ils sont tous les 5 qualifiés pour le championnat de France. Et nos amis de l'USAP, Mohamed Jamaï et Abdel Yandi, ils ont fait carton plein. 5 boxeurs qualifiés et 5 boxeurs ont gagné. Ils vont rejoindre 5 autres qui sont déjà qualifiés. L'USAP boxe, 10 boxeurs au championnat de France qui sont les 3 et 4 décembre pour les 8e, enfin les 16e et les 8e. Voilà.
Merci Alain. Alors on va entamer le vif du sujet, la Coupe du Monde au Qatar. C'est toi qui nous a proposé cette thématique pour aujourd'hui. Vous le savez, c'est un sujet qui fait grand débat, notamment d'un point de vue humaniste, puisqu'il y a eu pas mal de pépins, pour le dire, avec un euphémisme par rapport à la mise en place de cette Coupe du Monde. Donc Alain, je vais te laisser ouvrir la thématique.
Ouais, mais je crois qu'on en discutait la semaine dernière, je crois que c'était avec toi, et je savais même pas le jour du premier match de l'équipe de France, pour vous dire, moi qui suis un footeux, à quel point je suis intéressé par cette Coupe du Monde au Qatar. Et avant de passer à mes invités, on en parlait tout à l'heure en off, j'aimerais juste, si vous avez suivi le premier match Qatar-Uruguay...
Équateur, excusez-moi.
L'image de la Coupe du Monde pour moi, c'est ce but refusé à la 3e minute. Et je crois qu'on va manger une coupe du Monde qui va être un petit peu comme ça, où il va y avoir des choses bizarres qui vont s'y passer. Voilà. C'est mon avis à moi. Après, je ne sais pas. Je me suis entouré donc de Cyril Louafi et d'Anthony Touboul, qui sont deux éducateurs formateurs, dont Anthony Touboul, qui surfe en ce moment sur la victoire. Il faut dire les choses. Il est monté l'année dernière avec son club de Chambéry. Il est invaincu cette année en 7 matchs. Il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il est encore en Coupe d'Aquitaine. Enfin bon, c'est l'entraîneur qui monte, on va dire ça. Et Cyril Louafi, qui est éducateur formateur, qui travaille lui par contre sur Angoulême, c'est ça?
C'est ça, oui.
Et qui est, il s'occupe aussi des 18 ans de Sestas, mais il est en recherche de poste sur la région girondine. Mais c'est deux garçons qui vont vous parler foot, qui connaissent vraiment le football. Voilà.
Mais écoutez, peut-être on peut entamer le débat, la discussion, tout simplement. Que pensez-vous? Est-ce que la Coupe du Monde du Qatar, c'est un événement que vous attendiez tous cette année, hein? On sait que la Coupe du Monde, c'est souvent un événement très attendu par les footeux et aussi par les gens qui suivent moins le foot, parce que c'est très populaire. Et cette année, on a l'impression que ça fait un peu plus débat et que peut-être potentiellement ce sera une Coupe du Monde moins suivie. Donc parmi vous, déjà, qui a décidé de suivre la Coupe du Monde cette année?
Vas-y.
Moi, je la suis.
Anthony.
Clairement, voilà, Anthony, je la suis. Bon, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'une Coupe du Monde au mois de novembre-décembre, c'est pas habituel puisque généralement c'est plutôt mois de mai-juin, enfin juin-juillet même. Il a fallu beaucoup de mouvements pour la créer, cette Coupe du Monde, changer beaucoup de choses, changer les championnats, il y a plein de critères qui ont été malheureusement grâce à l'argent. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Tout ça, c'est grâce à l'argent. la FIFA a voulu absolument avoir cette manne financière pour potentiellement évoluer et créer autre chose. Mais voilà, je trouve que c'est cet argent qui a dominé cette Coupe du Monde et qui domine actuellement cette Coupe du Monde. Et pas le sport en lui-même.
Moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on fait un buzz actuellement. On veut pas, on boycotte pas, on met pas des écrans géants dans la ville. Entre parenthèses, ce que j'ai dit l'autre jour, c'est que sincèrement, les Qataris, ils n'ont rien à faire qu'il n'y ait pas d'écran dans la ville de Bordeaux ou de Rouen ou de Mésitou dans l'Oigne. Ils s'en foutent complètement. Après, il y a eu cette polémique aussi sur la bière, parce qu'il faut savoir que la Coupe du Monde au Qatar, malgré qu'ils aient de l'oseille, c'est quand même un grand brasseur de bière qui finance tout ça. Et à 48 heures du début de la Coupe du Monde, on lui dit non, la bière c'est terminé, il n'y en aura plus. Alors je ne sais pas comment ça va se passer l'histoire, parce que le gars il a quand même mis pas mal d'oseille. Et c'est des polémiques, enfin, ils cherchent à se faire aimer le Qatar, mais ils se font détester. Moi je ne veux pas rentrer dans ces débats-là, mais on n'a rien dit sur la Russie. Malheureusement, voilà. Il y a d'autres pays, les États-Unis, ce n'est pas plus propre non plus. Mais le Qatar, il porte cette image, j'en parlais tout à l'heure en off. Hier soir, si vous avez regardé France-Australie, à un moment donné, il y a la quatrième arbitre qui est une... Enfin,
tu l'as regardé, toi, alors ?
Oui,
j'ai regardé. T'avais dit que tu ne le regarderais pas.
L'équipe de France, j'ai regardé, mais il n'y avait que ça à la télé. Quoi. Mais, et entre parenthèses, je tiens à dire que je n'ai pas vu un grand match. Mais bon, il n'y avait que des plots en face et on verra après ce qui va se passer. C'est mon avis personnel. Si on démarre un match comme ça contre le Danemark samedi, on risque d'être mal. Ah ben si, il faut quand même regarder.
C'est toujours difficile de rentrer dans une compétition.
Hein. Surtout pour un champion de titre.
Ouais, mais enfin bon,
l'Argentine.
On met ça entre parenthèses, on en reparle samedi. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a des pays qui ont des politiques aussi sales, voire pires que le Qatar. Mais le problème du Qatar, c'est que c'est pas un pays de foot. Ils n'ont rien à faire au football, on le voit leur premier match. Et hier, il y a une image, si vous avez regardé, donc, j'en reviens à
France. C'est des financeurs de foot.
Ouais, mais y a la quatrième arbitre, enfin, c'était une dame, donc, et il y avait une déléguée derrière dame. Et à un moment donné, elle s'approche de Didier Deschamps sur un changement, je ne sais pas trop quoi. Et on voit un Qatari, quand il voit sortir cette dame en short, tourner la tête. C'est encore une image forte, je pense, d'une Coupe du Monde dans un pays qui n'a rien à faire au football. Je suis désolé, ils peuvent faire des courses de dromadaires, ils sont très forts pour ça. Non, mais c'est la vérité. En France, on fait des quintés avec des chevaux, ils le font avec des dromadaires, mais c'est vrai en plus. Mais il y avait autre chose à faire. Alors moi, j'en reviens, il y a 12 ans, la Coupe du Monde, le Qatar a été choisi il y a 12 ans. Il a été choisi par qui ? Par M. Michel Platini, par M. Zizou, notre Dieu vivant, par tous ces gens-là qui ont... C'est encore mon avis que personnel, hein, ils ne sont pas repartis les poches vides. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire autre chose plutôt que de dire on va boycotter maintenant, que de dire il y a 12 ans, non, stop. Je vous pose la question.
Ah ben c'est sûr que c'était il y a 12 ans qu'il fallait faire quelque chose.
C'est ça.
Aujourd'hui, c'est trop tard en fait. Maintenant, on est mis devant le fait accompli. Ça ne sert plus à rien de gueuler. Alors par contre, une Coupe du Monde au Qatar, c'est le moyen aussi de faire quand même passer des messages. Donc on peut faire passer les messages. Les Iraniens, par exemple, font passer des messages quand ils sont dans les tribunes, etc.
Ouais,
pour ce qui se passe actuellement en Iran, ce qu'on a vu pendant cette Coupe du Monde, c'est nécessaire. Donc si la Coupe du Monde peut servir au moins à ça, c'est-à-dire de montrer tout ça et de montrer que la population elle est contre certains faits et gestes de certains régimes douteux, c'est quand même pas si mal.
Et la FIFA qui cautionne tout ça, parce que le brassard que devaient porter les équipes pour une cause noble a été interdit sous peine de se voir enlever des points, voire exclu de la Coupe du Monde.
Des cartons jaunes aussi, j'avais cru entendre.
Ouais, c'est tous ces signes-là qui vont faire qu'au lieu de chercher à aimer ces gens-là, malheureusement on le sait, c'était pas gagné au départ, ça va être pire. Mm. Ça va être pire. Cyril, on t'a pas entendu encore ?
Non, c'est sûr que la décision il y a une dizaine d'années de proposer, de valider le fait que ça soit un pays musulman qui reçoive la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne faut pas faire trop les étonner sur les interdits, puisque je pense que ces gens-là quand même avaient quand même un petit peu prémédité un petit peu tout ça. Et que c'est vrai que, bon, mis à part le football avec Anthony qui nous intéresse, c'est sûr que tous les à côté, c'est un petit peu risible, mais je pense que c'est risible depuis le départ. Donc aujourd'hui, les conséquences qui arrivent, le brassard LGBT, pas d'alcool, pas ceci, pas cela. Il fallait un petit peu s'y attendre, je pense. Maintenant, je pense que la seule chose bénéfique, le fait que ça soit un pays Moyen-Orient qui propose cette Coupe du Monde, ça soit une, on va dire un esprit d'ouverture, un petit peu pour un petit peu lâcher du mou pour ces pays-là où c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour pas mal de petites choses. Et si ça peut donner un petit peu d'ouverture à ces pays-là, ça sera déjà ça de gagner. Après, ce qu'il y a derrière, bon, certainement que c'est un peu politique ou beaucoup, économique, etc. Mais bon, là, moi, après, ce n'est pas trop ma compétence.
Mais des ouvertures sur quoi ?
Bah, les ouvertures un petit peu sur la mixité, homme-femme, peut-être essayer de comprendre qu'une femme elle a autant une place qu'un homme dans une tribune, à encourager une équipe, son pays, ses couleurs, sans qu'il y ait trop de discrimination. Et puis si ça peut être cette petite porte qui en ouvre une grande dans les décennies futures, ça sera quelque chose de bien et de gagné. Mais est-ce que réellement c'est ça l'objectif de cette Coupe du Monde ? Je ne sais pas, je reste perplexe. Sans parler de football, puisque comme a dit Anthony, au mois de novembre, nous qui sommes éducateurs, on sait très bien que c'est une période où, en plus, 99% de ces joueurs sont professionnels. Donc forcément, physiologiquement, c'est compliqué. On le voit au travers de l'équipe de France.
Et puis les blessures.
C'est ça. C'est que physiologiquement, il y a beaucoup de joueurs, qui, comme Mané au Sénégal, Benzema en équipe de France, qui aujourd'hui ne peuvent pas participer à des compétitions comme ça parce que malheureusement, et bon, moi j'ai 48 ans, mais je crois que c'est la première fois que la Coupe du Monde se fait en période, on va dire, hivernale. Et voilà, bon, c'est peut-être une nouveauté, mais voilà, je ne sais pas. Après, certainement qu'il y a il y a différents objectifs pour différentes personnes dans cette Coupe du Monde. Moi, la mienne, c'est de regarder un maximum de matchs pour que je puisse regarder un petit peu et apprendre et comprendre pas mal d'équipes, puisque c'est ma passion, comme Anthony, je pense. Et merci de l'invitation, puisque c'est vrai que notre leitmotiv, notre passion, c'est le football. Après, ce qu'il y a derrière, chacun pensera ce qu'il veut, mais c'est vrai que depuis le départ, c'est un petit peu risible. Voilà.
Ouais, mais la passion, moi aussi, je l'ai. Bien avant toi d'ailleurs. Sur cette Coupe du Monde, j'ai pas de passion. J'ai vu qu'un match. Hein. J'ai vu que France-Australie, parce que je suis cocorico. Mais les autres Coupes du Monde, j'en ratais pas un. Je les ai enregistrés. Moi, je suis pas passionné du tout.
Tu sais que la passion, elle vient aussi avec les résultats. On est en phase de poule, c'est le premier match. S'il y a une émulation, si on voit que ça prend vraiment aux tripes et tout, par le jeu de l'équipe de France et d'autres équipes aussi, je pense que ça peut prendre. Il y a quand même un téléspectateur sur deux qui a regardé le match hier soir.
Ah oui.
C'est énorme. Donc, je veux dire, populaire, elle va être populaire quand même. S'il y a les résultats qui sont là,
oui,
elle sera
ça m'a choqué, ça. Ça m'a choqué parce qu'on va boycotter alors que l'indice d'audience de TF1 a explosé, le BIN a explosé, alors que les gens disent on va pas le regarder. Les bars à Bordeaux étaient gavés, quoi. Donc l'hypocrisie, elle va s'arrêter où ?
Moi, je pense que voilà, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a eu, avant cette Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de choses de dites et de non-dits. Et qu'aujourd'hui, les gens s'aperçoivent en fin de compte que cette Coupe du Monde allait lancer, que les vrais amoureux de football vont la suivre et que ceux qui étaient un petit peu réticents, je pense que dans l'engouement des différents matchs et puis de la programmation, je pense que les gens y viendront parce que c'est quand même le sport le plus populaire. Mais oui, si on reste tous sur les premières, on va dire, les premières motivations, personne n'avait envie de l'avoir. Parce que je vous dis, nous, les coachs, on n'a pas compris qu'en novembre, comment on pouvait physiologiquement préparer des mecs à une compétition de ce niveau-là. C'est quasi même compliqué, je pense, pour les coachs, qui sont plus compétents que nous. Mais après, un joueur reste un joueur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que cette Coupe du Monde, sportivement, je prends l'équipe de France, on n'a pas la meilleure équipe. Non. Parce que y a trop de pépins physiques et que c'est pas du tout adapté à un calendrier. Mais je pense, voilà, c'est un package. C'est une volonté de la FIFA de faire une Coupe du Monde comme ça, elle est ce qu'elle est. Je te rejoins, Alain, c'est sûr que c'est pas la Coupe du Monde 86 en plein été qu'on a connu avec tout ce qui va bien. C'est l'hiver.
Ça enlève tout le festif, en fait.
Dans un endroit du monde qui ne connaît pas forcément le football à ce niveau-là. Peut-être que c'est une ouverture sur quelque chose de bien.
Moi, je suis prêt à parier que la Coupe du Monde de rugby qui va se passer donc en été va drainer trois fois plus de spectateurs et de gens qui vont aller dans les bars, qui vont aller sur les écrans géants que cette Coupe du Monde. Hein. Parce que ça sera l'été.
Mais il n'y en a pas d'écran géant déjà. Donc,
hein?
Là, il n'y en a pas d'écran géant de toute façon.
Oui, il y a certaines villes qui l'ont fait. Il y a certaines villes. Mais vous, les éducateurs, en fait, les entraîneurs, je me mets à la place des gens qui ont une équipe de Ligue 1 ou Ligue 2. Déjà que c'est compliqué l'été, quand les mecs se barrent en vacances, de remettre les gars en forme l'été, alors que c'est beau, on sait tous que le corps réagit plus en été qu'en hiver. Là, la coupure qui va se passer, puisqu'on ne va pas jouer, ils ne vont pas jouer, elle va se produire en hiver, il va falloir tout repartir, tout refaire pour redémarrer au mois de janvier, mais c'est quasiment impossible, quoi. Les gars, ils vont se claquer, ils vont se déchirer, ils vont se tuer, quoi.
C'est quasiment de l'inconnu, hein, pour tout préparateur physique, c'est quasiment de l'inconnu. Chaque Coupe du Monde qui se joue au mois de juin, ils font pratiquement 3 semaines de préparation. Là, ils en ont eu une semaine. Et encore, ça n'a même pas été une semaine de préparation. C'était une semaine de repos.
Sauf l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, ils ont arrêté leur championnat mi-octobre pour pouvoir justement créer de la cohésion.
Ça a servi, ils ont battu l'Argentine.
La surprise de cette phase de poule. Hein.
Mais clairement, voilà, un préparateur physique te dira qu'il faut au moins trois semaines pour préparer un événement. Un événement où qui se joue tous les 3-4 jours, un match de haute intensité. En plus, bon, c'est l'été, donc il fait un peu plus chaud. Bon, là, ils sont dans un environnement où, bon, ils ont climatisé, mais c'est un environnement où, quand même, c'est
aride.
Voilà. Le problème, c'est que je veux revenir sur l'ensemble. Nous, en tant qu'amoureux du football, je vais te dire pourquoi je regarde la Coupe du Monde. Moi, ce qui me domine, c'est le football. Le problème, c'est que là, beaucoup de gens boycottent et compagnie, alors, apparemment moins que prévu, parce qu'on mélange tout, en fait. C'est-à-dire, on mélange tout. On a tout regroupé. Donc, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect religieux, c'est aussi un impact.
Économique.
Et il y a l'aspect football. Moi, clairement, c'est vrai que je ne veux pas faire la politique de l'autruche, à part regarder ce qui se passe, parce que moi, quand on entend qu'il y a eu, je ne sais pas combien de milliers de morts pour créer des stades, je trouve ça...
6500 et encore, c'est que le chiffre officiel.
Voilà, je trouve ça terrible. Franchement, je trouve ça terrible. Quand on entend ce qui se passe et compagnie, les décisions qui sont prises au début de la Coupe du Monde, je trouve ça terrible aussi. Est-ce que ces décisions, elles ont été données ici par les Qataris ou est-ce qu'elles ont été données il y a 12 ans ? Moi, c'est ça qui... tout ça, c'est... Mais pour moi... Tout ça, c'est pas mon domaine, en fait. Donc, c'est assez compliqué de débattre sur des choses où je maîtrise pas tout, en fait. Par contre, ce que je sais, c'est que je peux potentiellement maîtriser le football parce que j'aime le football et que j'en regarde tout le temps et que c'est ce qui me domine. Moi, je suis dans un club à aspect social, le RC Chambéry, c'est un club populaire. Chez nous, c'est multi-génération, c'est multi-diversité. Et ça doit être ça, le football. Et c'est pour ça que j'étais content d'un côté que ce soit au Qatar, parce que potentiellement, ça pouvait ouvrir. Mais on s'aperçoit qu'ils ouvrent qu'à moitié. Ou alors, ils ont ouvert pour acquérir la Coupe du Monde. Et c'est ça que j'ai besoin de savoir, moi. Est-ce qu'ils ont ouvert pour acquérir la Coupe du Monde? Et après, dès que la Coupe du Monde commence, on ferme. L'histoire de l'alcool, l'histoire de plein de choses. Donc, c'est tout ça, moi, qui m'intéresse. Savoir si réellement... c'est le football qui dominait tout ça et qui voulait une ouverture au monde et compagnie. Parce que bon, c'est très bien, hein, on peut tout acheter, l'argent. Et on voit aussi, parce que ça va être la même chose pour les JO, faire du ski en Arabie Saoudite, même s'il y a des endroits où on peut potentiellement. Enfin, je trouve ça un petit peu moyen au niveau climatique. Mais voilà, moi, c'est l'aspect du sport qui doit dominer tout. Et là, les gens qui boycottent, mélange un peu tout et je trouve ça triste parce que le football doit être un vecteur justement d'ensemble, de vivre ensemble et c'est ça qui me dérange en fait, c'est ça qui me gêne en fait.
Mais lorsque ce vecteur, personnellement, parce que justement moi j'attendais cette Coupe du Monde mais pas pour les bonnes raisons, pour moi je m'attendais à voir comment cette Coupe du Monde allait être la pire jamais créée. Et justement, ça se confirme. Ça se confirme. Et il y a un truc qu'on ne peut pas ignorer, on en a parlé justement, c'est ces 6500 personnes qui sont mortes pour la création de ces stades. Pour moi, je veux bien que le sport soit, et surtout le football, soit un sport qui unit, qui rassemble.
C'est un vecteur social.
Mais on ne peut absolument pas ignorer les personnes qui sont mortes, sous-traitées, sous-payées. Et encore, c'est le nombre officiel, on n'a pas compté les blessés. Lorsque ces gens ont donné leur vie pour que des Messi et des Ronaldo se présentent devant les terrains avec la lumière nickel et la climatisation parfaite, moi je peux pas être là devant à supporter ces jours-là en me disant eh mais c'est vrai qu'il y a 6500 morts, oh mais Messi a marqué. Moi j'avoue être un peu dans cette impasse, et notamment je dis ça parce que je me suis renseigné et je veux pas sortir de discours de politique de comptoir etc, mais ça me paraît être irrespectueux d'une certaine manière de me dire que je supporte une compétition qui est complètement bancale. Et pour revenir sur cette histoire d'arbitrage avec des femmes en tant que quatrième arbitre, on reste quand même sur un truc où c'est des hommes qui ont autorisé des hommes, qui ont autorisé des femmes à arbitrer ou être seulement sur place. Donc sincèrement, cette Coupe du Monde est problématique dans toutes les circonstances possibles. Et c'est quand même assez triste de voir que ça concerne non seulement le sport qui est le plus regardé, mais aussi l'un des sports les plus pratiqués dans le monde en général.
Après, si je peux me permettre, pour reprendre un peu ce que tu dis, oui, il faut faire la nuance, c'est forcément sur la volonté de ce qui s'est malheureusement passé avec cet abus sur les décès. Le seul souci où moi j'apporte la nuance, malheureusement, c'est que soit il fallait que les gens qui ont le pouvoir décident de l'annuler, cette Coupe du Monde, mm-hmm. et marquer le coup, et en disant, voilà, comment il y a eu pour le Covid, il n'y aura rien. Mm-hmm. Au Covid, il n'y a pas eu de ballon d'or. Mm-hmm. Au Covid, il y a eu plein de choses qui
ont été arrêtées ou annulées. Oui.
Peut-être que les politiques, entre guillemets, ou les gens qui ont le pouvoir, auraient pu prendre cette décision, ils ne l'ont mm-hmm. pas faite. S'ils ne l'ont pas fait, peut-être que derrière, il y a des choses qu'on ne sait mmh. pas ou qu'on ne saura pas. Mmh. En tout cas, j'espère quand même, je défends la pratique sportive et mmh. forcément les footeux. J'espère que les gens ne mettront pas ça sur les épaules et sur le dos des joueurs,
ah non, du tout.
Des sélectionneurs, des équipes, parce qu'eux, ils sont dans leur rôle. Mmh. C'est leur boulot, c'est leur mmh. métier de représenter un pays, une nation. Par contre, voilà, c'est sûr que j'espère que les gens pourront dissocier l'aspect politique, socio-économique mmh. et puis l'aspect sportif, puisque, comme l'a dit Anthony, donc voilà, c'est le sportif avant tout, mais c'est lié, c'est certes.
On est d'accord, mais c'est pas de leur faute et c'est certainement pas de la nôtre.
Tout à
c'est
fait.
C'est ça le truc, effectivement, c'est aux politiques de gérer. Mm-hmm. Nous, on n'a pas demandé que la Coupe du Monde soit au Qatar. Jusqu'à preuve du contraire, est-ce que quelqu'un l'a demandé, la Coupe du Monde au Qatar ?
Non, mais on est bien d'accord.
C'est ça. Donc,
Mélissa, une voix féminine peut-être ?
Oui. Alors, moi, je vais être honnête avec vous, hein, je suis pas footeuse. Donc c'est pas un sport qui me passionne ou qui m'intéresse plus que ça, et je pense que ça me donne un avantage, c'est que du coup j'ai pas l'affect et j'ai pas l'émotion qui se mêle à la situation. Alors faut peut-être rappeler déjà que le Qatar c'est une monarchie absolue,
oui.
Donc en fait ça c'est connu depuis des décennies, donc pour moi il y a une hypocrisie de la part du politique mm-hmm. qui est criante. Moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui la politique, hein, que ce soit la France ou d'autres pays ailleurs, enfin tous ceux qui participent, s'ils participent à cette Coupe du Monde, c'est qu'ils en ont rien à faire des dégâts humains, ou alors en tout cas c'est que l'aspect économique prime beaucoup plus que l'aspect humain. D'où la présence des pays à cette Coupe du Monde. Et il faut aussi rappeler que le Qatar, c'est un très gros producteur de pétrole. Mmh. Il y a ça aussi à prendre en compte. On sait tous qu'en ce moment, c'est un peu la galère avec la guerre en Russie et en Ukraine, qu'il y a des risques de pénurie de matières premières, etc. Donc peut-être qu'aussi, les pays se disent qu'on n'a pas à se brouiller avec un producteur de pétrole qui peut plus ou moins nous sauver la mise si jamais on a des problèmes. Donc il y a déjà ça à prendre en compte.
Du pétrole et du gaz.
Du pétrole, ah oui, et du gaz naturel liquéfié, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, je comprends aussi que, par exemple, des supporters de foot n'aient pas envie de s'intéresser tout simplement à l'aspect politique. C'est pas forcément le centre d'intérêt de tout le monde. C'est très complexe, c'est très compliqué. Je comprends que quelqu'un qui est passionné de foot ait envie de regarder son match et fasse abstraction, fasse un peu l'autruche, hein, face à ce qui se passe, et qu'au contraire, quelqu'un qui est un peu plus informé et qui s'intéresse vraiment à la chose humaine et à la chose politique se dise que mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment ça se fait qu'un tel cirque soit en cours ? Parce que c'est vrai que récemment, il y a eu la COP27 qui s'est terminée, qui est suivi de la Coupe du Monde, et aucun homme politique français, de ma connaissance, hein, je veux dire, qui est au gouvernement ou dans l'Assemblée majoritaire, n'a pris position pour dire que ce qui se passe au Qatar, c'est pas normal, etc. D'ailleurs, si la France gagne la Coupe du Monde, je pense que, comme d'habitude, hein, ça fera l'objet d'une récupération médiatique et politique, ça s'appelle le soft power.
Ah bah oui.
Et c'est inévitable que la Coupe du Monde ait lieu au Qatar ou pas.
Mais justement, Mélissa, t'as appuyé sur un point, là, c'est le truc médiatique qui va se passer si la France gagne ou même si elle ne gagne pas. C'est qu'on le sait tous, il y a des partis politiques en France et ailleurs qui attendent que ça. Ils attendent que le rebond pourri du Qatar pour faire leur chou gras. Et il y a une certaine personne assez blonde, je ne vais pas la citer, sa première chose à dire, elle, c'était « on va aller chez les enturbanés », bon, c'est parti là-dessus. Là, elle se calme, on ne l'entend pas parler. Moi, je suis persuadé que s'il y a des coups foireux, autant par les résultats que par tout ce qu'on veut, on va dire, voilà, on vous l'avait dit, c'est encore eux. Alors, est-ce qu'en mettant la Coupe du Monde au Qatar, on aide ces personnes discriminées ou est-ce qu'au contraire, on les enterre? Moi, je me pose cette question-là.
C'est assez paradoxal. Ouais.
Et puis, il ne faut pas oublier que ce n'est pas nouveau. Hein. Les 6500 morts, ça fait très longtemps, moi, que je vois des articles sur le désastre humain qui était en cours. C'est juste qu'il n'était pas médiatisé. Mmh. Et un mois avant le début de la Coupe du Monde, on commence à voir à la télévision des pseudo-débats sur « Ah, mais est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que ce qui se passe, c'est normal ?» etc. Alors que des enquêtes en cours, enfin sur Internet en tout cas, c'était largement consultable si on voulait se renseigner.
Surtout que depuis que cette Coupe du Monde a été validée, au Qatar, il y a eu plein d'épisodes et ça fait une dizaine d'années. Je crois que c'était validé en 2012, je crois.
2012.
Bon, ça fait 10 ans. Donc, je veux dire, il ne fallait pas attendre le mois de septembre ou novembre 2022 pour être étonné de quoi que ce soit. On a vu plein de choses, on a entendu plein de choses. Il y a eu des procès, il y a eu des gens qui ont été condamnés, pas condamnés, machin. Bon, voilà. Et je pense qu'on est malheureusement au début peut-être de plein de choses qu'on va savoir dans 10 ans, dans 20 ans, on sera peut-être plus là, mais y a, voilà, que ce soit politique, économique, comme tu disais Mélissa, il y a cet aspect aussi avec la Russie, donc ouais, c'est un mélange de plein de choses.
Oui, mais il y a 10 ans, quand elle a été choisie, moi je fais partie de ceux, parce qu'il y a eu des gens qui se sont mis contre, et peut-être qu'ils l'auront pas, et peut-être comment la déplacer, j'espérais jusqu'à la dernière minute que cette Coupe du Monde n'ait pas lieu là-bas.
Mais il y avait l'Australie qui s'était positionnée.
Oui, il y avait l'Australie qui était positionnée.
Ouais.
Voilà, il y avait, elle se serait faite en été, elle aurait été faite dans un truc festif où tout le monde aurait pu.
Comme le Brésil, le Brésil.
Sincèrement,
très bien.
Je bois pas d'alcool. Donc moi, que les Anglais pas de la bière, ça me gêne pas. Ouais, c'est pas ça qui me gêne. C'est l'aspect général. C'est l'aspect. C'est cette... Moi, je peux pas aller dans un café, dans un restaurant, aller voir un match. Je peux pas y aller.
Mais comme a dit Mélissa, c'est clairement une Coupe du Monde géopolitique.
Ah oui, mais
c'est,
totalement.
C'est... Alors nous, passionnés de football, on veut voir que le football parce que c'est ce qui doit dominer de la Coupe du Monde. Mais on sait très bien ce choix fait il y a 10 ans, c'était pas anodin. Il y a l'aspect, oui, on veut l'ouvrir au monde entier, mais on sait très bien que derrière, c'était pas pour rien. Je suis quasiment certain que cette Coupe du Monde, elle a été payée double par les Qataris. Parce qu'ils ont les moyens de le faire.
Le président de la FIFA, Infantino, il a dit, les matchs, il va falloir que tous les arrêts, que ce soit pour les célébrations, les s'il est là, je vais te dire pourquoi je dis ça, va falloir compter des arrêts de jeu. Il y a un article sur le sujet ce matin.
62 minutes.
Les matchs durent 100 minutes. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur-là, il lève le petit doigt et tout le monde est à genoux. C'est ça ou pas?
C'est non, un match plus une prolongation.
Je pense pas parce que c'est pas que lui qui a décidé ça. C'est aussi le corps arbitral. Hein. Il prend pas lui tout seul les décisions. Hein. C'est collégial. Il trouvait qu'il y avait trop de coupures. Ouais. Et que bah c'est vrai, hein, nous coach, on le voit hein, dans un match de 90 minutes, réellement, on joue.
Et tu changes ça,
minutes,
et tu changes ça à une Coupe du Monde qui est vue par des milliards de personnes.
Je pense
c'est
que,
pas là qu'il faut la changer.
C'est surtout qu'ils auraient dû
anticiper,
en parler bien avant,
en amont.
Attention, ce qui
voilà,
va se passer.
Ils ont voulu se démarquer encore, dire c'est nous le Qatar, on va innover.
Je suis pas sûr que ce soit lié au Qatar.
Non, après ça, depuis la VAR, depuis que la VAR est arrivée dans le monde du football, je suis désormais habitué à des matchs plus une prolongation en temps additionnel. Pour moi, c'est pas forcément la faute du Qatar, c'est vraiment la faute de la VAR.
C'est
en
comme quand ils ont sorti pendant le Covid les 5 remplacements. Avant,
oui.
Il n'y avait que 3.
Il n'y avait que 3. Ah, oui.
Bon, après, on est passé à 5. Donc, si
ça,
on
c'est la FIFA elle-même.
Ça peut être sans être. Parce qu'on faut c'est vrai qu'il faut, comme dit Anthony, il faut. Et Alain, c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord avec toi à 90%, mais c'est vrai qu'il ne faut pas tout voir de façon noirâtre.
Non, mais il
n'y
a pas
dire.
Tout le temps culturel.
Alors, dans voilà. Ces cas-là, ils avaient qu'à instaurer la règle du rugby, on arrête le temps.
Mais attention, c'est.
Mais ce pas instaurer
c'est,
cette
c'est,
règle bidon parce que
pareil,
les arrêts de jeu, ils sont donnés à la louche. C'est
alors,
comme on veut.
Alain, c'est en réflexion parce qu'ils en parlent. En fait, il y a un board à la FIFA où, justement, il y a beaucoup de gens de divers bords qui. Justement, se pose des questions sur les règles du football, même si on dit toujours le bord des vieillissants et compagnie. Là, dernièrement, ils ont des réflexions. Ils ont intégré Arsène Wenger, qu'on connaît nous tous français, pour réfléchir à l'évolution du football. Il y a eu ce choix-là de faire plus de temps de jeu effectif. Et justement, ils en parlent de potentiellement faire comme au football, comme au rugby, arrêter le temps. Par contre, réduire, plus passer à 90 minutes, mais à passer à 60 minutes.
Mais
donc il y a plein de choses qui sont en train de réfléchir.
Anthony,
tu as
bien dit,
tu as
dit le mot. Ils en parlent. Mais
oui,
pourquoi
mais...
Donc c'est. Ils peut-être en parlent, c'est... mais là c'est mis en place. C'est mis en place, puisqu'on le fait, c'est fictif, mais on le fait. Enfin, on le fait. C'est pas officiel, mais on le fait. On fait durer des matchs 114 minutes.
Là, c'est une évolution. Là, c'est une évolution. Parce que là, il
fallait, fallait attendre de faire une loi qui aurait été instaurée par le board, qui aurait dit voilà, à partir de maintenant, on arrête le temps. OK, mais pas faire ça à la Coupe du Monde pour se démarquer des autres.
Ils auraient pu, c'est vrai, en début de saison, sur toutes les, tous les championnats réunis, ils auraient pu déjà annoncer la couleur.
Alors, excusez-moi, je te coupe, j'en reviens, mais c'est souvent en Coupe du Monde qu'ils font des choses comme ça. On parle, on se rappelle du but en or ?
Oui.
Ça a été fait en Coupe du Monde ?
Oui, mais ça avait été annoncé avant.
Là, je suis d'accord. Je reviens sur ça, je suis d'accord avec toi.
On est bien d'accord.
C'est, ça n'a pas été annoncé comme le but en or.
Imagine le prochain match du Qatar.
Imagine le prochain match du Qatar.
On va faire une image. Il mène 1-0 à la 90e. Est-ce que tu crois qu'il y aura 14 minutes d'arrêt de jeu ?
Bah, il faut voir. Là,
tu vois le mal.
Je pense que les arbitres sont pas bêtes non plus.
Je suis réaliste, on l'a vu sur le but de la troisième minute qui est refusé.
Oui, on l'a
parce
vu.
Que j'ai regardé les images 1 million de fois.
Ouais, je continue.
Il va falloir m'expliquer comment il y a hors-jeu.
Je vais très loin. Enfin, je recule parce que bon, je me rappelle la Coupe du Monde 82, France-Coët, quand l'émir
du Coët
était descendu des tribunes. Ouais. Bah, on était en 82. Hein.
Oui.
Donc il y a longtemps. Donc, vous voyez que tout peut arriver, c'est clair. Tout peut arriver. C'est après voilà, c'est vrai que moi je reste ciblé, je suis comme Anto, je reste ciblé sur les voilà les projets de jeu, c'est ce qui nous enrichit aussi par rapport à ce qu'on aime faire, mais c'est vrai que c'est une Coupe du Monde, moi je la prends, je l'ai pris sérieusement il y a 10 ans quand ça a été voté, j'ai essayé de comprendre pourquoi le Qatar est plus qu'ailleurs. On va pas se mentir, le Qatar c'est l'un des pays les plus riches du monde. On le voit avec le Paris Saint-Germain. Hein. Si on est le Qatar du Paris Saint-Germain,
il y a pas Messi, il y a pas Mbappé, il y a pas Neymar, il y a personne.
Il y a le Paris Saint-Germain avec Ngoti,
avec Roten.
C'est pour ça que
Paris sont en Ligue 2 s'il n'y a pas le Qatar.
On peut pas dire qu'il y aura pas de magouille, c'est obligatoire. Ce but à la 3e minute, pourquoi il est enlevé ? On l'a vu quand il perd 2-0, le stade il se vide. Imaginez à la 3e minute, le stade il est vide.
Mais heureusement que les deux autres buts sont indiscutables hein, parce que sinon on sera encore à 0-0 à la fin. Hein.
Mais de toute façon, on va pas se mentir, dans les pays comme ça, on sait très bien que l'argent prédomine tout. Donc s'ils peuvent acheter un match, une Coupe du Monde.
Parce que ça s'est jamais fait ailleurs. Alain, que des matchs soient achetés, des arbitres soient achetés et tout ça.
Ou MVA.
Ça s'est pas fait ailleurs.
On peut faire un débat pendant une
minute. Pas à Seychelles, tu peux pas le faire. C'est la Coupe du Monde, c'est vu par des milliards de personnes. C'est le top du top. Ils le disent, ils aiment le football. À tout prix, ils vont le regarder.
La Russie.
OMVA, je m'en fous moi de Robert.
Il n'y a pas eu qu'OMVA.
Oui, il n'y a pas eu que. On avait un président moustachu à Bordeaux. Il était le roi aussi pour ça. Mais bon. Après, c'est la pause peut-être, Mélissa, non ?
Campus Bordeaux 88.1.
Radio Sunda 88.1 Business.
On arrive effectivement à la mi-temps de l'émission. On va continuer à en parler hein, de cette Coupe du Monde si les débats sont très enflammés et enjoués. Mais tout de suite, on va écouter un titre qui s'intitule « I tout est basse de la femme ».
Y tú te vas, y ya no queda otra más. 园之声八十八点一。
Campus Bordeaux 88.1.
Il est 13h35 et vous écoutez Sport Campus. On est toujours en direct avec nos invités du jour, Cyril Louafi et Anthony Touboul. On parlait de la Coupe du Monde qui fait grand débat et je crois qu'on a encore beaucoup de choses à dire.
Oui, moi, il y a un autre sujet que je vais aborder, c'est l'écologie. Parce que on entend parler 24h sur 24, c'est mondial la bagarre pour l'écologie, on est bien d'accord. Comment se fait-il qu'on puisse accepter que moi, il faut que j'aille travailler en vélo, je me pèle parce qu'il faut que je mette le thermostat à 19, et je suis frileux. Non, mais c'est vrai, il va falloir bientôt faire marcher la friteuse avec du bois. Et comment on peut accepter ce qui se passe au Qatar, où on voit des clims qui à fond, des jets privés qui vont entre villes pour se déplacer. Même les supporters sont obligés de se déplacer en avion parce qu'ils n'ont pas le choix. Comment le monde peut dire oui à ça? Et comment moi...
Mais parce que le Qatar, ils font déjà ça au quotidien. Hein.
Il fait 32 tout le temps là-bas.
Oui, mais...
Ça reste débile.
Alors, on revient à la première partie de l'émission où j'ai dit qu'au lieu de se faire aimer, à tous les niveaux, ils vont se faire encore plus détester.
C'est exactement ça. On est tout à fait d'accord. C'est ça le truc, c'est que... Il fait 32 tout le temps au Qatar. On le sait.
Combien?
Il fait 30, 32, quelque chose
même
comme
plus
ça.
Des fois.
40, hein.
Je fais, ouais.
Voilà. 32 à l'ombre.
Quoi qu'il arrive.
40 que...
Quoi qu'il arrive.
32 dans le frigo.
Quoi qu'il arrive, leur hiver là-bas, c'est lorsqu'on a été nous. Mais concrètement, cette Coupe du Monde, au terme écologique, ils doivent mettre des climatisations dans des stades.
Mais c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Hein.
Mais là, pour le coup, c'est comme on disait tout à l'heure, la Coupe du Monde, c'est quelque chose que tout le monde regarde. Donc tout le monde le voit que la clim est à 24 alors qu'il fait 34.
Le problème, c'est que on va dire que c'est la Coupe du Monde des absurdes. Je te rejoins sur ce que tu dis, Alain. Mais c'est pas nouveau. J'écoutais justement hier, c'est hier ou avant-hier, le match du Sénégal où l'ancien joueur de l'OM, l'attaquant, je ne sais plus comment il s'appelait.
Nyang.
Il a joué au Qatar et c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a les climats. Ça fait X années. Là-bas, tout est climatisé.
Oui, là-bas.
Tout. Mais parce qu'ils ne peuvent pas vivre autrement.
C'est tous les pays riches, hein, au Japon, tout est climatisé.
Non, mais nous, on l'a vécu. Là, on a eu quand même un été très, très chaud. Bon, je passe les feux, mais on a eu un été très, très chaud où on a vécu sous 40 degrés. Mm-hmm. Je ne suis pas certain qu'on ne s'est pas planqué dans des endroits climatisés.
Mais c'est obligatoire. Mais Anthony, ça te met pas la rage.
Mais eux, ils vivent au quotidien à 40 degrés. C'est logique qu'ils soient
sous. Tu vas voir une rencontre de judo le dimanche matin ou un match de basket et tu te pèles dans une salle parce qu'on peut pas chauffer, on peut rien faire parce que on parle écologie.
Eux, ils baissent trop. Mais
surtout, je réponds.
Mais tu veux pratiquer le sport à haut niveau, tu veux avoir un match de haut niveau, donc on sait la débauche d'énergie qu'il y a. Fait plusieurs matchs sous 40 degrés, je peux te garantir que le match va être catastrophique. Hein.
On l'a vu au tennis, oui. Où ils devaient prendre des pauses. Les joueurs devaient prendre des pauses à la fin de chaque set parce qu'ils ne pouvaient plus.
Mais moi, je vous réponds par une question. Pardon, excuse-moi.
Ouais, vas-y.
Moi, je vous réponds par une question. Est-ce qu'il y avait des caméras qui étaient retransmises dans le monde entier pour diffuser que nous, on allait se réfugier dans des trucs climatisés? Là, il y a le monde entier.
C'est planétaire, la Coupe du Monde. Tout le monde les voit, ces clims. Les mecs, ils ont les pieds congelés. On dirait des micos, les doigts de pied. C'est des glaces, c'est des frises.
Moi, par exemple, je vais.
Alors, ils ont chaud à la tête. D'habitude, ils ont toujours chaud. Ils ont froid aux pieds. C'est pas bon.
On peut aller très loin. Je vais grossir, mais je vais faire exprès de grossir. Je suis d'accord. Hein, la Coupe du Monde des absurdes, je suis d'accord. Hein. Mais on peut aller très loin. Il y a plein de choses qui sont aberrantes dans la vie de tous les jours. Tu tires la chasse, c'est de l'eau potable.
Oui.
Tu vas dans des pays, ils n'ont pas l'eau potable. Donc tu vois, c'est
mais Anthony, est-ce qu'il y a des caméras, Anthony, qui te regardent tirer ta chasse?
J'espère pas.
Non, mais surtout mais peut-être qu'il faudrait.
C'est pas parce qu'il n'y a pas de caméra que ça n'existe pas. Hein.
Mais bien sûr.
Mais ce qu'il a dit et ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on a choisi le mauvais moment pour tout ça. C'est le monde entier voit ça.
C'est pas le
et le monde entier se serre la ceinture. Et quand j'ouvre la télé, je vois notre cher président. Oui, on va baisser le thermostat.
Mais moi, j'ai pas envie. Oui, mais en 2010, on se posait moins toutes ces questions quand ça a été que la Coupe du Monde a été décrétée au Qatar.
Mais parce que Nico, je l'ai dit tout à l'heure, on était des milliers à penser que c'était du bluff, que ça n'allait pas se faire. Non, moi, j'étais persuadé que ça n'allait pas se faire.
Et puis, le rapport à l'écologie, il est radicalement différent de 2010 à 2022.
Voilà, c'est ça. Je vais dire, il y a ça aussi, Mélissa.
Moi, 2010, il y avait encore pas mal de climato-sceptiques. C'est aujourd'hui, quand même, je veux dire, après, vis-à-vis de l'écologie... Moi, que la Coupe du Monde au Qatar, ça me choque pas plus que ça, parce que je trouve qu'il y a une hypocrisie générale envers l'écologie qui est quotidienne. par rapport au gouvernement. Par exemple, en ce moment, bah, comme tu dis, on se serre la ceinture. C'est le fait qu'ils mettent la responsabilité écologique sur les comportements individuels, alors qu'en fait, on sait très bien que ce qui fait désordre, c'est les lobbies, c'est les modèles, les productions agricoles, c'est les trucs à très large échelle, Total, Perenco, etc. Et que c'est pas parce qu'on met le chauffage à 19 degrés chez soi qu'on va sauver la planète. Non, donc ça, à la limite...
Moi, je vais poser une question à Cyril et à Anthony. Vous êtes éducateur, formateur. Comment vous avez présenté... Toi, tu fais les seniors, mais toi qui as des jeunes des 18 ans, c'est encore des jeunes. Comment vous allez la présenter, cette Coupe du Monde, à vos joueurs? Vous leur dites c'est super, c'est si, c'est cas. Ou vous essayez de faire passer un message pour leur dire attention? Cyril?
Moi, je vais aller au plus simple, ce que disait Anthony, parce que c'est vrai que notre point commun entre joueurs et éducateurs, c'est le jeu. Et que c'est sûr que je vais rester que sur ce principe-là, parce que tout le reste, je ne le maîtrise pas. Ça m'intéresse parce que je suis père de famille, j'ai quand même deux enfants. Et que c'est vrai que la seule chose où je peux mettre un peu de pertinence avec mes joueurs, c'est que le jeu. On peut aller sur l'écologie, mais j'ai peur de me perdre parce que je ne maîtrise pas tout. Je vais leur parler de ce que je vis au quotidien, c'est-à-dire la poche noire, la poche jaune, les bouteilles plastiques, le carton, etc. Mais je ne maîtrise pas tout. Donc, je préfère rester dans ce que je peux éventuellement faire avec eux, c'est-à-dire le jeu.
Voilà. Donc, si je posais la question, ce n'était pas innocent, c'était pour ça. C'est parce qu'en fait, on se donne bonne conscience. On est au bar, au coin du bar, ouais, l'écologie, t'as vu là-bas, ils mettent la clim et tout. Mais on n'essaie pas de porter la parole. Et ces jeunes, comme tu dis, qui ont 18 ans, là, pour eux, ça paraît normal. Donc, si on leur dit pas oui, mais attention, ça va leur paraître normal. Donc, est-ce que le rôle d'éducateur, effectivement, moi je suis éducateur aussi, c'est de parler que de foot, c'est leur pas. Mais faire une petite parenthèse.
Alors, juste pour reprendre ce que tu... Et Anthony va me certifier ça derrière. On a la Fédération française de football a proposé il y a quelques années le PEF, le Programme éducatif fédéral, qui dégage des thématiques. Donc, il y a l'engagement citoyen, l'environnement, l'arbitrage, le fair play, etc. Donc, les clubs de foot proposent des thématiques.
Donc, c'est la bonne occasion.
Bien sûr. Bien sûr. Après, à notre niveau, à nous, puisque le Qatar, j'ai l'impression qu'ils sont quand même passés à un certain niveau que nous, amateurs, on ne maîtrise pas. Mais sachez que, non, on a des thématiques, les RTJ, les responsables techniques jeunes dans les clubs, apportent des thématiques sur la vie quotidienne et l'environnement, et le fer en plage, etc.
Donc vous en parlez, quoi.
Alors, bien sûr qu'on en parle, et heureusement.
Ma question n'était pas si bête que ça.
Non, on en parle, et la Fédé, via les ligues, via les districts, nous demande, au RTJ notamment, alors je ne le suis pas, je l'ai été, mais nous demande justement de fédérer les enfants et d'aller sur des thématiques bien précises, hors football, mais qui sont liées au football.
Ouais. Mais moi j'aimerais répondre par rapport à ça, je trouve ça assez intéressant. Déjà, j'estime que cette Coupe du Monde, j'aime bien l'expression que au mauvais endroit, au mauvais moment, marche vraiment très bien pour cette Coupe du Monde. Et deuxième chose, pour moi, c'est pas forcément une question de maîtriser des sujets que l'on connaît pas, etc. C'est une question de constater. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des problèmes écologiques et humains évidents. J'ai pas besoin de me renseigner plus que ça pour les voir, les 6500 morts, c'est pas très compliqué. Donc, c'est. Pour moi, il n'y a pas forcément beaucoup de maîtrise à avoir dans une idée politique, géopolitique, écologique, etc. pour voir que c'est problématique. Il y a un truc qui ne va pas.
Le problème, c'est qu'il y en a qui portent la parole inverse. C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais d'où vous le tenez, ces 6500 morts? D'où vous le tenez, ceci?
Il y en a toujours des contestations.
Nous, on le tient d'où, ça?
Parce qu'on s'est renseigné, on s'est informé.
Tu t'es renseigné où?
Moi, j'ai regardé notamment au niveau des journaux. Bon, après, c'est
les médias.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais le citoyen qui veut pas entendre ça, il va te dire, mais tu le sais d'où, toi? Tu as été au Qatar?
Ben non, j'y suis pas été, mais c'est parce que, justement, peut-être des gens y sont été ou des gens ont fait des reportages dessus qu'on a cette information-là.
Ouais, c'est surtout les médias qui nous ont un petit peu boosté là-dessus. C'est comme les spectateurs qui ressemblent à des Pakistanais et qui ont le meilleur.
Ah bah oui, et puis surtout les faux supporters.
Il y a une image qui m'a fait rire, c'est qu'il y avait marqué France au lieu de France.
Ouais, l'image des supporters français, t'as un Pakistanais, mais alors il a l'air de tout le monde.
Après, il faut faire quand même attention aux fake news parce que dans les réseaux sociaux, il peut tout se passer, on peut tout inventer.
Mais ça, c'est pas du faux, Anthony, c'est pas du faux.
Là, c'est compliqué de dire que c'est faux.
Après, d'après ce qu'ils ont dit, les mecs ont été payés pour aller là-bas. Ils avaient hôtel, ils avaient bouffe, tout le pays. Au dernier moment, ils ne leur payent plus à manger. Ouais. C'était 3 repas par jour, c'est fini, ils ne leur payent plus les repas. Donc...
Non, mais c'est pour non, ça
non,
que c'est...
Non, mais il y a les images télé où on voit des... Avant la Coupe du Monde, pas la... juste avant l'ouverture, on voit les supporters français. Et voilà, et on en voit 2 ou 3, ce n'est pas des Français, c'est impossible.
Ils connaissent Zidane et Mbappé.
Oui, voilà, c'était des remplaçants. Ça, là. Non, non, ils crient tous...
peut-être qu'ils doivent se dire que Ronaldo est français quelque part, on ne sait pas en fait.
L'humanité oublie aussi ces 6500 morts si l'équipe de France est championne du monde.
Ah, moi, je l'oublierai pas.
Moi non plus.
Alors,
moi non
plus.
France championne ou pas, je m'en fiche.
Mais il y a beaucoup de gens qui vont l'oublier. Il y a beaucoup de touristes qui vont en Égypte tous les étés et qui ne se rappellent pas que les pyramides ont été construites par des esclaves. Et dans tous les pays du monde...
Oui, mais là, tu remontes.
Non, mais d'accord, mais dans tous les pays du monde, on va dans des endroits... où il y a eu des morts aussi qui ont construit les bâtiments qu'on a dû le connaître.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on continue à le faire ?
Bien sûr
que
non. Voilà, mais ce que je dis, c'est qu'il y a cet oubli qui est permanent et qu'on oublie rapidement les gens qui sont morts.
Si on rentre là-dedans,
j'étais au Maroc, l'autoroute Casa-Rabat, il y a eu des milliers, peut-être pas des milliers, mais il y a beaucoup de morts qui sont morts sur les chantiers parce qu'ils travaillent jour et nuit sous la chaleur, on n'en a pas parlé.
Mais tu la prends l'autoroute quand il va.
Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que la Coupe du Monde, j'ai le choix d'allumer ma télé ou pas.
C'est ça. Oui,
c'est
vrai.
Je sais pas
si la Coupe du Monde, c'est pas essentiel.
Je sais pas si tu connais le Maroc, mais si tu te tapes Casa Rabat hors autoroute, tu vas trouver le temps long. Hein.
Mais c'est bien pour ça qu'on oublie, on oublie, on oublie.
Donc non, mais la Coupe du Monde, c'est pas une. Je la regarde, j'ai regardé la France.
Non, surtout,
tu vois, j'adore le Maroc. Il jouait ce matin, j'ai même pas voulu enregistrer le match. En fait, parce que je me dénie, quoi.
En fait, ce que tu veux dire, Alain, tout simplement, c'est la ferveur. Après, c'est vrai que c'est à des kilomètres et des milliers de kilomètres. Donc, c'est vrai que nous, en Europe, on la voit avec des jumelles. C'est pareil dans l'autre sens. Mais c'est vrai que quand une Coupe du Monde se fait en Russie, c'est un peu plus proche. Bon, il y a peut-être un peu plus de ferveur. Mais après, c'est toujours pareil. Si l'équipe de France va en quart de finale, à mon avis, il y aura autant de monde qu'en 2018. Mais bon, derrière ça, où je te rejoins, c'est triste pour une Coupe du Monde ou pour n'importe quoi, en fait.
On est d'accord, de
massacrer des populations ou des gens pour peu de choses, mais malheureusement.
Et quand on voit qu'ils ont construit des stades, ils vont les démonter pour les vendre à des pays étrangers.
Mais bien sûr.
Non, mais jusqu'où vous, la bêtise ?
Mais bien sûr.
Ça va aller jusqu'à où, là ?
Et surtout, je vais me permettre de te contre-argumenter sur ce que tu disais. Par rapport à l'Égypte, et on disait, oui, les pyramides, etc., c'était il y a plusieurs milliers d'années.
Voilà.
Là, on est dans l'actualité pure et dure où le mois dernier, on a recensé 6500 morts. Je ne dis pas que les morts pour l'Égypte, etc., ne sont pas importantes, mais là, on est en plein dedans. On est en plein dedans dans l'actualité.
Et non, mais on le sait.
Oui, on le sait.
Ça fait 3 ans qu'on le...
On le sait, mais ce n'est pas pour autant qu'on oublie. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas regarder la compétition et j'ai fait le choix aussi de justement d'en parler. C'est pour ça que ce lundi, j'ai fait exprès de parler de soft power, de sport washing. J'ai vraiment fait exprès parce que je me suis dit qu'il faut qu'on informe aussi d'une certaine manière, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. C'est qu'on informe des bienfaits ou des mauvaises choses qui sont dans la Coupe du Monde.
Mais quand on a construit Versailles, il y a eu des morts et des blessés. C'est d'ailleurs là que la sécu a plongé, là, il me semble. Non, ça a causé des blessés. Non, c'est ça.
Ben oui, mais le point commun entre Versailles et le Qatar, c'est que tous les deux sont des monarchies. Mm-hmm. Et qu'en fait, dans les monarchies, on traite les êtres humains comme des objets.
C'est le régime politique.
Je ne dis jamais les choses innocemment.
Il y a le régime politique aussi qui rentre en compte.
Mm. Ouais, ouais.
Moi, je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux quand je dis tout ça. C'est que je dis que l'humanité oublie très facilement, c'est tout, c'est mon constat.
Après, on va, parce qu'on arrive peut-être pas loin de la fin.
Il nous reste 10 minutes.
Hein, ouais, au niveau de nos éducateurs formateurs, on va parler un petit peu, de sport au niveau de la Coupe du Monde. Vos impressions sur le début déjà ?
Oui, c'est ça, performance.
Ouais.
Ben, comme je disais tout à l'heure, hein, la préparation, elle est tronquée. Donc, on voit toutes les équipes qui arrivent avec des joueurs qui sont à plat, ou blessés, ou moyennement opérationnels. Et donc, ça va pas produire une qualité qui devrait être celle d'une vraie Coupe du Monde avec les meilleurs joueurs du monde. Donc là, la problématique, elle est que ça va être une Coupe du Monde un peu tronquée, où on va prier chaque match.
Là, tu parles au niveau sport. Hein,
voilà, au niveau sport, on va prier chaque match pour qu'il n'y ait pas de blessés. On l'a vu encore hier avec,
rien qu'en France, ouais,
avec
c'est
l'équipe
ça.
De
on
France.
On a le ballon d'or,
mais c'est dans tout.
Hernandez, c'est fini pour lui.
J'ai vu ce matin, il y a un joueur qui s'est claqué. Et il ne pourra plus rejouer. C'est pas ça, possible. Ça. Un claquage, sa Coupe du Monde, elle est terminée. Et je pense qu'à chaque match qu'il va y avoir,
c'est juste ça, en fait.
Il va y avoir un blessé.
Cyril ?
Ouais, non, mais c'est vrai que tout est faussé parce que c'est toujours pareil. L'après Coupe du Monde, les mecs, quand ils vont rentrer en club, il n'y a pas de trêve.
Ils vont
remettre le Bluetooth tout de suite. Donc ça veut dire que s'ils ne pètent pas au mondial, ils vont peut-être péter après. Non, mais ça va être. Voilà.
Il y en a qui ont pété avant.
C'est ça. Et non, mais le problème, c'est que les dés sont jetés. Donc maintenant, il va falloir que tout le monde assume.
Après, la polémique, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, c'est que Benzema aurait simulé par rapport au Real de Madrid.
C'est ce qu'on disait pour Pogba aussi.
C'est les polémiques.
C'est vrai que là, si on rentre là-dedans, on va se dire que tout le monde s'est blessé juste pour ne pas y aller. Mais moi, par exemple, pour la Coupe du Monde, je trouve ça quand même assez dommage que et le Ballon d'Or et le meilleur buteur de Bundesliga ne soient pas là.
C'est curieux.
Mais je dis pas pour autant qu'ils ont fait exprès.
Est-ce qu'ils avaient envie de jouer la Coupe du Monde là-bas?
Benzema, oui, parce qu'il est Ballon d'Or.
C'est les joueurs qui ont fait le plus de matchs,
oui.
C'est logique.
Bah oui.
C'est logique qu'ils se blessent. Ben ils ont fait énormément de matchs. Ils ont fait énormément de matchs. C'est normal qu'ils se blessent.
Mais juste pour la question de la condition physique, on parle des stades climatisés. Moi, je pense que s'il n'y avait pas eu la clim, il n'y aurait pas eu de match. Parce qu'aller jouer dans un pays où il fait 40 degrés, c'est une condition sine qua non pour des joueurs qui ne sont pas habitués à ce genre de climat, qui est vécu dans un pays chaud, on adapte les horaires à la chaleur, etc.
Comment jouer avec 40 degrés? Même là, marchant dans la rue avec 40 degrés, on ne supporte pas.
Bon, les Africains, ils ont l'habitude. Le problème, c'est que quand tu en fais un, de temps en temps, ça peut passer physiologiquement parlant.
Là, c'est toute une compétition.
Là, le problème, c'est que tu as 3 matchs en 10 jours.
Plus l'entraînement,
tu as minimum 3 matchs.
C'est ce qui fait que les pays africains disent qu'ils vont gagner la Coupe du Monde par rapport à la chaleur.
C'est pour ça parce qu'il fait 25 sur le terrain.
Tu dois faire minimum 3 matchs en 10 jours. Ouais. Et si jamais tu passes, tu dois encore te taper les 8e, les quarts. Imaginez les finalistes. Les finalistes, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. 7 matchs à 32 degrés minimum.
C'est pour ça que tu pars avec 26 joueurs.
Ah bah du coup l'équipe de France c'est l'infirmerie qui va jouer. Je me demande si ça frappait des ballons.
On
mais
est déjà plus que 24.
Non 23 parce qu'ils ont pas remplacé Benzema.
C'est là que j'ai pas compris l'idée 24, de pas prendre un 26e parce que Klose, on va le voir. On a vu le match de Pavard. Là on parle de football.
Bavard,
on a vu le match de Pavard hier soir.
Apparemment c'était une catastrophe.
Il a été catastrophique. Il a 3 sur 10 sur les notes et il prend pas Klose et on part à 25 alors qu'on a droit à 26 en sachant qu'il va y avoir des blessés.
Il y a que deux là.
Dédé, il s'est troué, non?
Moi, c'est pas Klose que j'aurais pris. Hein. C'est justement Ferland Mendy.
Oui,
il est capable
de
jouer à gauche et à droite.
Au moins prendre un 26e. Au moins un 26e. Alors, il y a aussi une autre polémique qui dirait que, j'ai entendu ça l'autre soir sur RMC par Riolo, que Benzema, peut-être, si on arrivait en demi-finale, reviendrait.
Non, ça, c'est pas possible.
Mais c'est ce que les gens disent. C'est...
Ça oui, provoque tout ça. Même dans les règles de la FIFA, c'est pas possible.
Ah si, il est marqué.
Ah bon?
Ah si, il est sur la liste. Il peut revenir quand il veut. Ah, il peut revenir. Il est marqué sur les 26. Il peut revenir quand il veut. Et s'il
il a déclaré forfait.
Alors, il a déclaré forfait.
Clairement, j'y crois pas du tout. Parce qu'en plus, on est entraîneur.
Hein. Non, je t'explique le règlement, comment ça se passe. Il a pas pris un 26.
Deschamps peut rentrer en cours de jeu.
Ouais, Deschamps, ce serait rigolo. On appelle De Sailly, il vient.
Une chose sûre, il aurait pris un 26e. Benzema a été forfait. Il n'a pas pris un 26e, il a toujours son 26e qui est marqué sur la liste. Il est déclaré forfait pour l'équipe de France, mais pas pour la FIFA.
Ouais, mais enfin, moi je suis entraîneur. Quel discours tu peux donner aux autres?
Mais bien sûr,
tu n'as
pas sorti Giroud maintenant.
Tu perds toute crédibilité. Alors, voilà. C'est un fabuleux joueur.
Écoutez, RMC,
Benzema.
C'est un fabuleux joueur.
Le joueur par lui-même, bon, Ballon d'Or, c'est mérité parce qu'il a produit et compagnie. Mais faire ça dans un groupe.
Non, mais ouais. Si Benzema il revient comme une fleur en demi-finale, on va se dire coucou les gars, je vous ai manqué. Et ça se fait pas. D'autant plus pour Giroud, pour Marcus Thuram, pour les buteurs qui sont déjà en équipe de France. Si jamais ils se repointent,
Si Deschamps fait ça, il se met le feu tout seul.
Ah bah oui.
Non, mais vous prêchez un convaincu, mais on peut pas empêcher les gens de parler.
Et de cohérence et de tout ce qu'on
veut. Imaginez une seconde, Giroud se blesse.
Bah,
et Benzema, on est en demi-finale, il court. Qu'est-ce qu'on fait?
Mais non, il y a Marcus Thuram. Ils ont appelé Marcus Thuram.
Ouais.
Ils ont appelé Marcus. Ils peuvent mettre Mbappé en pointe Thuram, et mettre Coman à gauche. Il y a toujours une solution.
Il y a Pierre Papin aussi qui peut.
Ils ont justement appelé Marcus Thuram pour pallier l'absence d'Nkunku.
Il ne faut pas parler tous en même temps. Là, on parle tous en même temps.
Cyril, tu voulais nous parler un petit peu de ta carrière, ce que tu vas faire sur la Gironde?
Ouais, alors moi, non. Je suis arrivé il y a 3 ans sur la Gironde, sur un petit projet. La complexité, c'est que je travaille toujours sur Angoulême en Charente. Donc voilà, je suis formateur aussi occasionnel à la demande de la Ligue ou des districts Charente ou Gironde. Donc je fais du foot tout le temps en fait. Je suis éducateur sportif à la mairie d'Angoulême. C'est vrai que je cherche depuis 2 ans, alors le Covid ne m'a pas aidé, mais depuis 2 ans, je cherche un poste sur le Bordeaux et la Gironde. Et c'est vrai qu'en contrepartie, étant donné que j'ai mes diplômes d'entraîneur, voilà, je recherche éventuellement un projet club et avec une mutation qui va bien ou un contrat au club sur de la N3, de la R1 ou chez les jeunes, voilà. Mais sur de de la Ligue, voire sur des 17 NAS ou des 19. Alors, comme j'ai un bon coach à côté de moi qui a un gros réseau, Anthony, non, je rigole, mais c'est vrai que Bordeaux, c'est quand même une terre de foot. Et puis, il y a les Girondins derrière, en espérant que ça remonte. Voilà, j'aimerais vraiment m'asseoir dans un club avec un projet sur un poste de coach ou de directeur technique. Enfin, voilà, apporter mes petites compétences au sein d'une équipe. Et puis, pouvoir vivre correctement. J'en profite pour remercier ma femme et son fils Tim qui me voient pas beaucoup, mais voilà, qui me suivent dès qu'ils peuvent, et je la remercie beaucoup, mes enfants aussi, parce que c'est un boulot, c'est une profession d'être éducateur, entraîneur, voire formateur. Et moi, c'est vrai que c'est ma passion, je vis, je mange, je parle football. Et donc c'est vrai que si je trouve un club qui vraiment qui me colle au pied, alors c'est ça, je suis bien, hein. Je suis tombé dans un bon club. Je fais un petit coucou à mes collègues, mes joueurs, les parents des joueurs, parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. J'ai une très bonne génération sur le plan humain, sur le plan sportif, on bosse dur. En tout cas, merci de me donner la parole et un bisou à ma petite dame. Voilà.
Je voudrais, Mélissa, si tu permets, puisque tu es entraîneur au RC Chambéry, avoir une pensée pour Roland Crémé, qui était venu de nous inviter, qui amène sa maman demain à sa dernière demeure. Donc, il a toute notre pensée à nous. L'émission prochaine ?
Oui, vas-y.
Alors, mercredi prochain, vous aurez Alain Barrière. C'est pas le monsieur au disque d'or, hein. Il est plus grand. C'est un personnage de la ville de Bègles. Je sais pas si vous en avez parlé. C'est un monsieur qui est dans le vélo, qui est un passionné.
Il est sur le vélo ou dans le vélo ?
Il s'occupe du vélo, il forme les jeunes. Il est très âgé d'ailleurs. Et c'est le président du CAB cyclisme. Je l'ai eu au téléphone. Il pète les plombs parce que le CAB, c'était quand même un fleuron du cyclisme dans la région. Ils sont quatre à faire des compétitions. Donc il va venir nous parler de vélo mercredi. Vous allez voir, c'est quelqu'un quand il parle. Il est adorable, quoi. Il vit une passion, c'est un truc de fou. Moi, je ne peux plus le lâcher au téléphone. Donc, il sera avec nous mercredi prochain pour parler de vélo. Et pourtant, moi aussi, je parle.
En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, Alain. Mélissa, merci à vous. Et puis, Anthony, merde. Mais je sais que ça va le faire.
On travaille.
Ouais. En tout cas, merci pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup, Alain.
Mais merci à vous.
Merci.
Campus Bordeaux. 88.1.
Et voilà, c'est la fin de cette émission et de ce débat pour aujourd'hui. Donc on n'a pas pu sauver la planète, hein. On n'a pas pu trouver de solution, hein, pour cette Coupe du Monde. On en est vraiment désolé. Mais en tout cas, on espère que vous avez pu passer un agréable moment d'écoute sur notre antenne.